Bonjour à tous et bienvenue sur le Sprint, le média sport auto fondé par des fans pour les fans. Pour cette nouvelle année 2023, nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer un nouveau format sur le Sprint, le Media Day. Dans ce format, nous interviewerons les personnes qui font le sport auto et quoi de mieux pour commencer que d'interviewer Sharon, commissaire de piste sur différents circuits français. Dans ce podcast, vous apprendrez comment devenir commissaire, quelles sont les responsabilités qu'ils ont, quel est l'avis de Sharon sur les différents incidents que nous avons pu voir cette année en F1 impliquant des commissaires, et peut-être même qu'elle vous encouragera à vous aussi exercer cette passion. Très bonne écoute à tous, et à bientôt.
Ok, super. Eh bien, bonjour Sharon, merci de nous accorder ce temps pour cette interview. Donc toi, tu es commissaire de piste au Castellet. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît ?
Alors du coup, moi c'est Sharon, j'ai 24 ans. Du coup, je suis actuellement en études en troisième année d'école de commerce. Du coup, je suis commissaire depuis presque 3 ans maintenant. Et du coup, je suis licenciée au circuit de Croix-en-Ternois dans le Pas-de-Calais. Et je suis souvent du coup sur Le Mans et j'ai pu du coup aller justement cette année au Castellet pour le Grand Prix de France de F1.
Ok, super. Alors, commissaire de piste, c'est... on en voit tout le temps, on en voit à la télé, peu importe le sport mécanique qu'on regarde. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu as eu cette envie de devenir commissaire de piste ?
De base, c'est surtout une passion pour les sports mécaniques, hein, que ce soit moto ou auto. Ça me vient de mon grand-père, du coup, depuis toute petite. Les dimanches avec mon grand-père, c'était le repas, puis on regardait les départs de Grand Prix de F1 ou les spéciales en WRC. Donc forcément, passion qui est là en famille, en fait, tout simplement. Et puis, c'est lui qui m'a vraiment transmis, du coup, cette passion et elle est toujours là aujourd'hui. Et voilà.
Ok, et du coup, comment ça se passe pour la sélection ? Est-ce que tu as dû passer des entretiens, des formations ? Combien de temps ça dure ? Raconte-moi un peu tout ce moment-là, du moment où on passe de « j'ai envie de devenir commissaire » jusqu'à « je suis enfin commissaire et je peux travailler ».
Alors du coup, donc cette expérience, elle parlera que de moi parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont pas forcément passées par ce stade-là pour être commissaire. Mais en gros, j'ai contacté du coup le circuit de Croix-en-Ternois. Le circuit dans le Pas-de-Calais, qui m'ont dit en fait tout simplement qu'il fallait passer une formation pour être commissaire. Donc c'est des manuels à lire et à apprendre qui vont vraiment apprendre tout ce qui est sécurité, incendie, drapeau, vraiment tout ce qui va être sur la mise en place de la course, pendant la course et après la course, même pendant tout ce qui est essais, qualifications, tout ça. Et en fait, cette formation, du coup, elle vise à vraiment bien connaître tout ce qu'on doit faire et appréhender tout ce qu'on devra faire. Ça passe aussi par une demi-journée ou une journée, ça dépend un peu du circuit, de formation où, en fait, on va revoir tout ce qui est dans les manuels, du coup, principalement... C'est à peu près la même chose pour l'auto et la moto. C'est sur une demi-journée. Et en fait, à la fin de la journée, pour les commissaires nationaux, du coup, le premier stade de commissaire, ça va être un examen sous forme de QCM et quelques questions écrites avec une question qui est, du coup, éliminatoire. Après, je ne sais plus exactement ce que c'est au niveau du barème de points, mais je sais que pour... normalement, il me semble que les deux examens sont sur 100 points. Il faut avoir un minimum de points pour pouvoir être admis à l'examen.
Et c'est long cette formation ? Les manuels sont conséquents ?
Oui, quand même. Alors en moto ça va. En moto ça va. Il me semble que ça regroupe une 60aine de pages à peu près. Après il y a aussi des explications sur la fédération, sur toutes les personnes qui sont au-dessus de nous, comme par exemple les directeurs de course, les collèges des commissaires, du coup ceux qui prennent les décisions en cas de sanction. Mmh. Et par contre pour l'auto c'est un peu plus long. C'est aux alentours de 172 pages.
Ah oui, quand même. Ok. Que tu dois connaître par cœur, du coup, quasiment.
Ouais, c'est quasiment que du par cœur. Après, quand on passe les stades au-dessus, par exemple, en auto, hein, quand on passe, du coup, la licence commissaire B, qui est commissaire international, que j'ai passé, d'ailleurs, en décembre et que j'ai raté, parce qu'il ne faut pas croire que c'est simple. Hein, ouais. C'est vraiment beaucoup plus complexe parce que du coup, on va vraiment avoir tout ce module avec les nouveaux règlements des véhicules hybrides, surtout par exemple pour tout ce qui va être l'endurance, tous les véhicules hybrides, et on va aussi avoir les véhicules électriques où là, c'est vraiment, vraiment complexe et il faut vraiment se pencher dessus parce que c'est très, très important.
Ok, et quelle est la différence du coup entre ces deux grades ? Comment ça se passe ? T'as le droit d'officier sur certains circuits, certains événements et pas d'autres ?
C'est ça, exactement. En fait, quand on est commissaire C, donc ce que je suis moi, du coup, commissaire national, je parle que en auto, parce qu'en moto, du coup, on est obligatoirement... Enfin, dès qu'on a la licence, en fait, on est directement international. En automobile, c'est différent, parce que du coup, on a le commissaire C, qui est du coup juste au national, donc on peut, en fait, officier sur toutes les épreuves qui sont sur le territoire national. Je sais qu'il peut exister quelques dérogations pour aller en Belgique, mais c'est vraiment à la frontière, donc c'est encore différent. Et quand on est commissaire B, du coup, qu'on a passé la licence internationale, là, on peut vraiment aller officier partout dans le monde.
Ok, très bien. Et donc, du coup, tu n'es pas commissaire pour une seule piste. Ma question, c'est... on a parlé en off de la Formule 1 que tu as officié au Castellet sur le dernier Grand Prix. Mais là, tu peux officier dans toutes les disciplines que tu veux en France. Et si
exactement.
Oui, parfait. Et bien dans ce cas, quelles sont les disciplines que tu priorises en fait? Comment ça se passe? Tu as un calendrier et tu te places dessus ou tu dois candidater?
Ouais, c'est ça. En fait, nous, du coup, par le circuit sur lequel on est licencié, on reçoit du coup le calendrier prévisionnel des épreuves. Là, on ne l'a pas encore reçu pour mon circuit, mais nous, on est aux alentours de 6 ou 7 épreuves par an, qui vont de très petites épreuves à vraiment grosses épreuves. Par exemple, on peut avoir juste une coupe, la Coupe des Hauts-de-France, il me semble, en moto, et on peut aller jusqu'au championnat de France de drift. Qui est la plus grosse épreuve ça, qu'on a, et c'est vraiment une épreuve qui est vraiment incroyable à regarder. J'ai pas encore officié dessus, mais c'est vraiment une très très grosse épreuve, il y a vraiment énormément de monde. Après, pour tout ce qui est des autres circuits, moi ce que je conseille, c'est d'aller voir directement sur le site des deux fédérations, hein. Ils ont les calendriers à partir de décembre, voire même un petit peu avant, hein. Ils ont les calendriers pour l'année suivante. Moi je sais que là j'ai déjà un calendrier qui est déjà quasiment tout prêt pour savoir ce que je peux faire l'année prochaine et où j'aimerais aller, parce que le but c'est aussi d'aller sur d'autres circuits et de rencontrer des nouveaux commissaires en fait, et pouvoir aussi officier sur des épreuves que j'ai pas encore fait, par exemple, des disciplines, pardon. Parce que du coup, je priorise énormément le circuit parce que c'est vraiment la discipline que je préfère. Mais j'aimerais bien faire aussi de la course de côte, qui n'est pas forcément très très connue, mais qui est aussi très très beau à regarder. Et faire un petit peu plus de rallye aussi.
Ok, très bien. Et donc du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont tes grosses épreuves que tu attends particulièrement pour 2023 et t'espères te positionner dessus?
Bah du coup pour 2023, bah forcément les 24 heures du Mans, 24 heures moto, hein, c'est vraiment les deux plus grosses épreuves. Normalement c'est tout fait, parce que du moment où en fait on voit au Mans, on a une équipe pour l'année suivante, ça en règle générale c'est bon, on a toujours l'équipe en fait pour toutes les années suivantes. J'aimerais faire le MotoGP au Mans, parce que je l'ai fait en spectatrice du coup cette année. Mm-hmm. Et j'aimerais vraiment le faire en tant que commissaire, parce que c'est une ambiance qui est totalement différente. C'est une très très bonne ambiance. J'ai beaucoup d'amis qui ont participé cette année et qui étaient vraiment très contents. Okay. J'aimerais, si possible, c'est pas encore sûr, mais du coup repartir au Castellet, mais pour l'Ultimate Cup.
Ouais.
L'Ultimate Cup Series, du coup, que ce soit moto ou auto, hein, forcément. Et j'aimerais bien faire le Grand Prix de Pau aussi. C'est vraiment une épreuve où on m'a fait beaucoup d'éloges sur cette épreuve, donc je pense que j'irai cette année aussi. Ouais.
Ah, très sympa, très sympa. Au Mans, si tu y es, n'hésite pas, moi je serai là aussi dans les gradins.
Cool.
J'ai pris ma place, j'ai tellement hâte que les 24 heures du Mans, la centième, enfin le centenaire plutôt.
Voilà, le centenaire, ouais. Et ça va être quelque chose de fou. Franchement, ça va être quelque chose de fou.
Ouais. Du coup, malheureusement, cette année, pas de Formule 1 au Castellet. Comment tu as vécu cette expérience en 2022? Est-ce que tu savais que c'était ta dernière expérience au Castellet avec la F1? Et si oui, est-ce que tu en as plus profité?
Déjà, de base, j'étais pas censée y aller en commissaire.
D'accord.
J'étais censée y aller en spectateur avec mon groupe d'amis que j'ai rencontré du coup sur Twitter. Et en fait, j'ai Tony, du coup, qui est chef de poste et directeur de course au Castellet, qui m'a contacté et qui m'a demandé si j'étais OP pour venir en tant que commissaire. Et de base, moi, c'était vraiment pas du tout mon but, quoi. Je voulais faire mon premier Grand Prix en tant que spectateur. Et au final, je lui ai dit oui. Au final, je lui ai dit oui et j'étais vraiment super contente. On était quasiment que des jeunes à notre poste, ce qui change par rapport à d'habitude, parce qu'il y a vraiment un mix d'âge sur toutes les épreuves que je fais. Et là, c'était vraiment quasiment que des jeunes. L'ambiance était folle. Entre nous, tout se passait super bien. Franchement, c'était une très, très bonne expérience. C'était aussi un rêve d'enfant, hein, forcément, de pouvoir voir la F1 et la F2. C'était déjà... un très très grand rêve pour moi qui s'est réalisé grâce à Tony, hein. Et en plus pouvoir intervenir sur de la F2, donc Dennis Hauger qui me semble a une casse moteur en qualif, et sur la course de Porsche, ouais, on a fait une intervention sur Hard Dog, pareil, un spin, il se fait rentrer dedans, machin, donc c'était vraiment une super expérience et je ne regrette absolument pas d'y être allé en tant que commissaire.
Et tu parles un peu de tes missions en F1, mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle en tant que commissaire? Comment ça se passe la journée, les journées, les week-ends en fait de course auto ou de course moto? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des grandes différences dans la préparation entre des gros événements type 24 heures, type F1, ou est-ce que c'est un peu pareil finalement que des événements, on va dire, plus locaux?
Alors, il faut savoir que du coup, il y a surtout une grosse différence entre les épreuves, on va dire, normales, qui ne sont pas forcément à très grosse affluence, entre la F1 et l'endurance. En fait, les missions, entre guillemets, vont être les mêmes, mais c'est l'organisation qui va être différente. Dans le sens où, par exemple, on va dire une journée type sur un événement à petite affluence, ça va être en poste à 7h, 7h30 pour un début vers 9h, parce qu'on doit faire l'inspection de la piste, on doit vérifier si la piste, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de débris, vraiment vérifier l'état, même par exemple quand il fait très très froid, pour pouvoir du coup cibler les plaques de verglas ou tout ce qui peut être dangereux en fait pour les pilotes. Et toute la journée, en fait, on va tourner. Pour ma part, en tout cas, on va tourner sur plusieurs missions. Donc, par exemple, je vais pouvoir être une heure au flag. Donc, du coup, ça peut être une heure au flag au drapeau bleu, une heure au flag au drapeau jaune. Ensuite, on va passer du coup sur du sifflet. Donc, ça va être surtout de la protection des commissaires. Parce que le sifflet, il est très, très important. C'est, par exemple, si on a des commissaires qui vont en intervention, c'est nous qui avons les yeux sur la piste. Si eux, ils sont de dos, c'est très très rare que les commissaires soient de dos, mais c'est eux du coup qui vont pouvoir prévenir grâce au sifflet s'il y a des voitures qui arrivent dangereusement ou des motos qui arrivent dangereusement. Et après, du coup, on fera aussi de l'intervention, mais ça va vraiment tourner comme ça quasiment toute la journée. Pour la F1, c'est encore différent parce que du coup, on est vraiment attribué à un poste, du moins à une mission. Pour le Grand Prix de France, du coup, moi, j'étais en intervention Marshall, donc je faisais vraiment que de l'intervention. En cas de problème, on pouvait faire du flag aussi, mais on restait principalement sur l'intervention.
Ok.
Et du coup, sur tout ce qui va être endurance, surtout 24 heures du Mans, du coup, on va tourner aussi comme ça sur les postes. Enfin, du coup, on peut faire du flag comme on peut faire de l'intervention et du sifflet, mais du coup, c'est sur des plages entre 3 et 4 heures.
Okay.
On va tourner comme ça par équipe, en fait, nous, à notre poste, du coup, au karting. On tourne comme ça, c'est à peu près une plage de 3 à 4 heures. Il me semble que cette année, c'était 3 heures. Et toute la journée, en fait, on va tourner comme ça pour avoir aussi des moments de repos. Hein, parce
ouais,
que,
c'est ce que j'ai de dire, ouais, sur des grosses sessions d'endurance.
Ouais, c'est ça. Ça nous permet de pouvoir voir à peu près tout, parce que du coup, il n'y a pas que la course des 24 heures du Mans. Il y a aussi les courses annexes, comme l'année prochaine, il me semble qu'il y a le retour de la Porsche Super Cup. Et du coup, ouais, ça permet de voir un petit peu de tout, de pouvoir s'exercer sur tout. Et puis après, nous, on se repose quand même, parce que faut pas croire, hein, c'est très très épuisant quand même d'être comme ça.
Mais j'imagine bien, et heureusement que vous êtes là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette interview, c'est pour parler de ces métiers dont on parle pas forcément beaucoup. Parfois, quand on en parle à la télé, c'est souvent pour les critiquer, et c'est dommage parce que c'est même pas un métier en tant que tel, c'est une activité bénévole, non, si je me trompe pas.
C'est ça, exactement.
Ok, donc vous n'avez aucune rétribution, même pas un cadeau, je ne sais quoi.
Alors si, ça arrive, par exemple, nous sur le circuit de Croix-en-Ternois, du coup dans le Nord, on a tous les repas qui sont pris en charge, par exemple. Okay. Sachant que c'est un très petit circuit, ils ne peuvent pas forcément se permettre de faire des choses exceptionnelles, je veux dire, mais déjà juste partager un moment tous ensemble, le midi et le soir, pouvoir avoir un vrai repas et pas des sandwichs ou des trucs comme ça, vraiment nous, déjà ça nous réconforte sur la journée, parce qu'on ne vit pas que des belles choses. Hein. Parfois, on est amené à rencontrer des accidents et tout qui nous font un petit peu une baisse de morale. Mais rien que ça, déjà, c'est un beau moment pour nous. Après, sur Le Mans, on a un pack de bienvenue. On a toujours des goodies qui sont offerts par la CO. On a aussi une combinaison offerte tous les ans. À l'effigie du coup de la date de la date de la compétition. Donc là bah, j'en ai déjà deux du coup. Et il y en a qui sont là depuis 40 ans quoi. Donc y en a qui ont 40 combinaisons quoi.
Une belle garde-robe.
Du coup ouais en fait souvent oui on est quand même remercié par des petits cadeaux par-ci par-là après on a très souvent des places du coup qui nous sont données pour nous remercier pour en faire profiter la famille et les proches. Je sais que par exemple pour les 24 heures du Mans tous les ans on a deux passes semaine offertes à chaque commissaire.
Ah c'est très bien ça. OK.
Donc là par exemple pour cette année j'ai une amie du coup qui fêtait son anniversaire pendant les 24 heures du Mans donc je lui ai offert les places pour son anniversaire et puis l'autre je l'ai fait gagner sur Twitter pour pouvoir faire profiter quelqu'un qui a pas forcément les moyens de se payer un week-end sur circuit quoi.
Trop bien bravo. Tu parlais à l'instant des accidents parfois qui peuvent un peu faire chuter le moral. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement d'avoir vraiment des choses graves? Est-ce que tu as par exemple déjà sauvé quelqu'un? Et comment on gère cette pression? Est-ce qu'on vous forme justement à gérer cet aspect psychologique un peu de... il faut que vous soyez très concentré pendant les quelques minutes qui peuvent être déterminantes pour la vie d'un pilote?
Alors, du coup, moi, j'ai jamais été confronté à un accident vraiment grave où la vie du pilote son état est entre la vie et la mort. Hein, ça, j'ai jamais vécu. Et j'espère ne jamais le vivre parce qu'on est là pour ça aussi. Hein, on est là pour protéger. Et malheureusement, les accidents, ça arrive toujours. On a eu affaire, surtout au Mans, on a eu affaire à des très, très gros accidents. Je pense surtout du coup au départ des 24 heures moto et aussi les essais pendant les essais des 24 heures moto. C'était les deux plus gros accidents qu'on ait eu et c'est vrai que sur l'accident du départ on a vraiment eu très très peur parce qu'il me semble que du coup c'est deux pilotes qui se rendent dedans vraiment au moment du départ hein. Parce que du coup ils font un départ Le Mans en moto. Et il me semble qu'il y a une différence de 60 km/h à l'impact entre les deux pilotes. Donc c'est vraiment énorme. Après, on est formé là-dessus parce qu'on sait qu'on va être confronté à des situations qui vont être très très compliquées. Même pour nous, hein, on est confronté à la mort tout le temps. Hein. On est considéré comme sportif à haut risque. Parce que bah, malheureusement... une chose qui se passe mal et c'est notre vie aussi qui est en jeu. Et ça souvent on s'en rend pas forcément compte hein, parce que c'est voilà on dit les commissaires ils sont pas dans les voitures ils sont pas sur les motos mais voilà c'est arrivé je pense surtout à qui, il me semble que c'était à Kyalami un commissaire qui est pas ressorti de la piste assez rapidement et qui s'est fait percuter par une Formule 1 mais après c'est pas arrivé depuis très longtemps il me semble que ça fait quasiment un an qu'il y ait pas de gros accidents qui soient arrivés avec des commissaires.
En Espagne, il y a une année...
L'année dernière, je crois.
Ah, c'était l'année dernière, d'accord.
Je crois que c'était l'année dernière, mais je ne suis pas sûr.
Je me souviens en Espagne qu'il y avait eu un accident avec impliquant une Formule 1, je crois. Mais ce n'était pas lié à... Enfin, c'était pendant la Formule 1, mais je ne sais pas si c'était lié à une Formule 1. Peut-être que c'était une fonction support, enfin, des catégories support, je ne sais plus.
Oh, je ne sais plus du tout.
Mais en tout cas, ouais, donc du coup, tu es quand même amené à... Enfin, vous êtes conscients tous de ces risques-là et on vous informe sur ces risques-là.
Ah oui. Bah ça c'est en gros le gros point qu'on aborde pendant les formations. Hein, c'est il faut se préparer psychologiquement à voir des choses horribles. C'est dur à dire, mais il faut se préparer psychologiquement quoi. Parce que je sais que j'ai des collègues. Du coup, on a eu un accident. Moi, j'y étais pas, mais on a eu un accident sur le circuit de Croix Internois l'année dernière pendant la course de sidecar ou les qualifications, je ne sais plus. Et malheureusement, le pilote du sidecar est décédé. Et on sait que bah, du coup, le commissaire a vu l'accident, a vu l'état du pilote. Et malheureusement, c'est ce qui manque à aujourd'hui dans les deux fédérations, hein, que ce soit en auto ou en moto, on n'a pas en fait de cellules psychologiques pour nous aider après l'accident, parce que pendant l'accident on sait comment réagir, on est formé à ça et je pense que de toute façon la passion aussi fait que on peut pas surréagir en fait, on peut pas surréagir à ce qui se passe et on est vraiment très lucide dans ce qui se passe.
Okay.
Mais ça reste quand même des moments qu'on n'a pas envie de vivre et quand on les vit. Heureusement qu'on a du coup cette famille de commissaires parce qu'on est vraiment bien plus qu'une famille et on s'aide tous dans ces moments-là et heureusement que ces personnes-là sont là autour de nous pour nous aider.
Ok. On en vient un peu à la question de la professionnalisation de je vais dire métier de commissaire pour essayer de rendre ça plus simple parce que je pourrais dire plutôt une activité de commissaire mais On a vu récemment quelques incidents en piste en F1, je pense notamment au Japon. Ça impliquait directement des commissaires qui étaient sur la piste avec des voitures qui passaient très très vite à côté d'elles, enfin à côté d'eux, pardon. Toi, quel est ton regard sur ces incidents-là ? Est-ce qu'il y a une différence de formation entre des commissaires qui sont étrangers et français ? Enfin, en tout cas, étrangers, je veux dire, dans des fédérations étrangères et en France. Et est-ce que pour toi, commissaire, ça devrait devenir un métier et on aurait un collège de commissaires qui suit une épreuve tout au long de l'année ?
Alors, du coup, oui, au niveau des fédérations étrangères, on est tous formés différemment hein, parce que nos fédérations nationales ne sont pas les mêmes. On sait que, par exemple, bah forcément, Monaco, c'est les meilleurs commissaires du monde. Hein. Ils sont formés, ils ne sont pas formés qu'une demi-journée. Hein. Ils sont formés sur plusieurs week-ends par an. C'est vraiment... voilà. On sait qu'eux, par exemple, ils sont vraiment... beaucoup plus formé que nous, mais au final, la finalité, elle restera toujours la même. Ensuite, en fait, il faut juste savoir que nous, les commissaires, on ne prend pas de décision. C'est très, très rare qu'on prenne des décisions. Nous, on suit les décisions de la direction de course. Donc, on s'en prend souvent aux commissaires hein, qui sont sur la piste, mais la plupart du temps, les décisions ne sont pas prises par nous. Donc, Je ne critiquerai jamais le travail d'un directeur de course parce que c'est un travail qui est très très compliqué et malheureusement ils sont derrière des écrans à surveiller à plusieurs personnes, donc il y a forcément des choses qu'ils ne voient pas mais que nous on voit, et c'est pour ça que nous on est là en fait, parce qu'on est leurs yeux tout simplement. On est leurs yeux sur ce que eux ne voient pas ou n'ont pas le temps de voir. Donc oui, il y a des erreurs qui ont été faites, peu importe la discipline, peu importe la compétition, mais voilà, c'est collectif, et s'il y a une erreur, bah on saura comment réagir une prochaine fois, et eux sauront aussi quelle décision prendre les fois d'après, quoi.
Et c'est bien que tu dises justement que les commissaires ne prennent pas de décision, c'est le directeur de course, la direction en fait, qui va vous demander d'intervenir, qui va vous demander de mettre tel drapeau, de rentrer sur la piste ou non.
Exactement.
Donc c'est important que tu le dises, parce que je pense que c'est pas forcément très clair à la télé. On a l'impression que les commissaires décident d'eux-mêmes d'aller chercher une pièce ou quoi. Non, on leur a demandé.
Non, pas du tout.
On leur a donné l'autorisation d'aller chercher cette pièce. Donc ouais.
Voilà, nous on a le pouvoir sur quasiment tous les drapeaux, sauf du coup les drapeaux qui sont soumis à la direction de course, donc c'est-à-dire le drapeau rouge. Nous, on n'a pas le droit de mettre le drapeau rouge si on ne nous le demande pas. D'accord. Le drapeau à damier, c'est pareil. Bon, après, ça, c'est encore différent. Après, tout ce qui va être drapeau de pénalité, drapeau d'avertissement. Donc, je pense surtout au drapeau noir à disque orange, le drapeau noir et blanc, du coup, qui signale un avertissement. En fait, nous, on a vraiment la main mise sur le drapeau jaune, le double drapeau jaune, le drapeau vert, le drapeau bleu.
Voilà. D'accord. Et
parce que ça, c'est nous qui le voyons, en fait.
Et piste glissante aussi ?
Oui. Mais souvent, sauf vraiment en cas de... genre on a un réservoir d'huile qui pète juste devant nous, là on est obligé de le mettre. Le changement d'adhérence, on est obligé de le mettre. Mais après, très souvent, la direction de course derrière vont nous dire « Ok, là la piste est libre, vous pouvez aller récupérer les débris, vous pouvez aller nettoyer la piste, il y a safety car, vous êtes en sécurité. » Et en fait, principalement, ils vont toujours œuvrer à notre sécurité en priorité.
D'accord, ok.
C'est-à-dire que si, par exemple, bah, malheureusement, il y a une flaque d'huile, il y a un véhicule qui arrive, ils ne vont pas nous lancer sur la piste.
D'accord, ok. Okay.
Mais oui, parfois, ça arrive qu'il y ait des erreurs. Mais c'est, je veux dire, l'erreur est humaine, même si c'est des erreurs qui peuvent être fatales. Je veux dire, c'est quand même une grosse pression d'être directeur de course. Donc, il faut aussi saluer leur travail. Parce que, c'est du coup, pour avoir des amis qui sont directeurs de course, leur travail est vraiment très très important, il faut vraiment pas le prendre à la légère, quoi.
Ok. Et du coup, je te posais aussi la question sur le fait de professionnaliser l'activité de commissaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Ah, c'est une question qui a beaucoup fait parler sur Twitter, hein. J'ai vu passer un peu le sujet, mais je me suis pas trop attardée dessus, en fait, parce que je me dis non, il ne faut pas que les commissaires deviennent en fait un milieu professionnel, tout simplement parce que déjà en fait on peut pas se permettre de payer un tel nombre de commissaires sur une épreuve, parce que rien que sur les 24 heures du Mans, il y a quasiment 1500 commissaires. Donc il faudrait rémunérer ces commissaires-là. Sauf que je pense que déjà les fédérations n'ont pas forcément les moyens de les rémunérer, parce que c'est un très gros coût quand même. Et comment dire ? comment je pourrais formuler ça, dans le sens où ça intéresserait beaucoup trop de monde si c'était payé.
Oui, je vois ce que
en
tu
fait,
veux dire.
En fait, nous, en tant que vrais passionnés et en tant que bénévoles, en fait, on s'en fout d'être payé ou pas. Nous, on est là pour la passion, on est là pour faire ce qu'on aime et on est là pour être avec les personnes avec qui on est tout le temps, les personnes que vraiment qu'on aime, pour être dans cette famille, en fait. Mais s'il y avait une rémunération ou machin, ou si c'était vraiment un métier, en fait, je pense que ça intéresserait tellement de monde que ça serait plus de la niche, en fait, dans le sens où on se retrouverait sur des événements où on a besoin de 200 commissaires, et ben on se retrouverait avec 1000 candidatures. Donc, besoin de refuser des gens. Donc, au final, ces personnes-là ne seraient pas payées, alors qu'elles sont censées être rémunérées. Donc, pour moi, non, un commissaire ne doit pas être payé. Je veux dire, c'est de la passion avant tout. C'est de la passion, c'est du bénévolat, et malheureusement, c'est comme ça, ça restera comme ça, mais pour moi, c'est la meilleure des choses à faire.
Ok, ok. Alors, je vais te parler un peu de enfin, tu me dis si t'es à l'aise d'en parler, mais je voulais parler du fait que t'étais une femme dans le sport auto. Est-ce que t'es à l'aise d'en parler ou pas trop ?
Bien sûr, bien sûr.
Ben alors, voici ma question. La F1 aujourd'hui, c'est majoritairement masculin, on peut même le dire, le sport auto de manière générale, c'est majoritairement masculin. Même si certaines femmes commencent à être mises en avant, je pense aux Iron Dam par exemple, qui ont réalisé un bel exploit cette année. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve chez les commissaires? Et si oui, est-ce que tu as l'impression que parce que tu es une femme, tu as peut-être moins de responsabilités, comme on pourrait le voir un peu trop dans le sport auto, je veux dire, côté professionnel, c'est-à-dire côté ingénieur, côté mécanicien, côté pilote même, malheureusement.
Du coup, il faut savoir que c'est une question à laquelle j'ai répondu sur Canal. Alors, le monde des commissaires, il est totalement différent du monde des sports méca en général. C'est-à-dire qu'on est beaucoup de femmes. On est beaucoup de femmes à être commissaires, surtout au Mans. Au Mans, on est vraiment énormément de femmes. Sur le circuit où je suis licenciée, du coup, on n'est pas beaucoup. Mais après, c'est pas forcément une mauvaise raison. C'est surtout que bah, y a pas forcément, dans ce coin-là, il n'y a pas forcément de femmes qui veulent devenir commissaires. Donc voilà, c'est juste une question de... C'est juste une question de localisation, on va dire. Sur le Mans, ouais, on est vraiment énormément de femmes. Et non, il n'y a pas du tout... Enfin, moi, je le ressens pas, en tout cas. Il n'y a pas du tout de différence, en fait, qu'on soit homme, femme, non-genré, tout ce qu'on peut retrouver maintenant. Nos responsabilités seront les mêmes. Nos postes seront les mêmes. Je veux dire, par exemple, porter un coussin de docteur pour aller secourir un pilote de moto, je veux dire, qu'on soit un homme ou une femme, on le portera quand même.
Okay.
Il y a vraiment aucune discrimination dans ce sport, enfin, du moins dans cette passion de bénévole. Moi, j'ai jamais été confrontée à ça, en tout cas.
Okay.
Et c'est pour ça que c'est un plus pour nous, parce que de par notre expérience en tant que femme, on va dire aux autres femmes qui veulent le faire mais qui n'osent pas parce que justement c'est qualifié comme un sport masculin, nous on va leur dire bah non, en fait, nous ça se passe super bien, on est très bien accueillis, il n'y a aucune différence, vraiment, que même qu'on soit un jeune commissaire comme moi par exemple, parce que c'est même au bout de 3 ans, hein, c'est être jeune commissaire. Et des personnes qui sont là depuis 40 ans, c'est pareil. En fait, il n'y aura jamais de différence non plus. Et on se nourrit, en fait, de l'expérience de chacun, que ce soit homme envers femme, femme envers homme, âgé envers jeune. C'est pour ça que j'aime énormément ce monde-là, parce qu'on est là... En fait, on n'est pas là pour faire un concours de celui qui a fait le plus d'épreuves, celui qui va faire le plus de choses. On est vraiment là pour s'aider et pour passer des bons moments tous ensemble. En fait, c'est ça. C'est cet esprit-là que nous, on aime, et c'est cet esprit-là qu'on veut garder aussi.
Écoute, j'espère que ton
Après,
message...
Après, du côté...
J'espère que ton message sera bien entendu.
J'espère aussi, parce qu'on en manque. Moi, j'aimerais bien avoir encore plus de femmes dans ce monde-là, parce qu'il y en a tellement qui sont encore dans le... Ah, je sais pas, parce que si je suis en poste qu'avec des hommes et tout... Mais moi, cette année, on était 3 femmes. Aux 24 heures du Mans, on était 3 femmes, on était 2 dans la même équipe, et ça s'est super bien passé, quoi. Franchement, enfin, du moins, dans mon équipe, on était 3 femmes, pas au total, hein, parce qu'il doit y avoir 200, 300 femmes. Hein. Mais
oui, parce que...
ça se passe toujours très très bien, quoi.
Oui, parce que 3 femmes sur 1500 personnes, ça ferait pas beaucoup.
Non. Après, il y a toujours cette différence, hein. Il y a toujours vraiment beaucoup moins de femmes par rapport au nombre d'hommes, mais... J'ai rarement entendu vraiment un problème majeur concernant le genre d'une personne, quoi.
Et okay, c'est cool.
C'est ça qu'on aime, c'est vraiment ça qu'on aime. Après, du côté pilote, du côté ingénieur, je sais qu'il y a beaucoup plus d'ingénieurs qui sont femmes aussi maintenant, qui arrivent dans les sports méca. Ouais. Il y a un peu plus de tout ce qui va être technicien, tout ce qui va être au niveau du moteur, vraiment, même dans les designers, il y a de plus en plus de femmes. Et c'est bien que ce soit reconnu, parce que c'est pas parce qu'on est d'un genre différent que les postes devraient être pris différemment.
Ouais, tout à fait. Tu as entièrement raison, et il n'y a qu'à voir la qualité de Anna Schmidt pour comprendre à quel point...
Exactement, c'est le plus bel exemple qu'on peut donner, je pense.
Ouais. Malheureusement, pour un fan de la Scuderia, c'est dur à entendre, mais... mais oui, Anna Schmidt a tout mon respect. Dernière question, je voulais un peu parler des perspectives d'évolution. Tu m'as parlé du fait que tu avais tenté de passer c'est une licence, on peut dire, pour devenir commissaire.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est un examen pour obtenir une licence. Ouais.
Donc la licence de commissaire international, c'est toujours ton objectif. Et ensuite, est-ce qu'il y a une suite à ça ? Est-ce qu'après on peut monter dans la direction de course, ou au contraire on reste vraiment en tant que commissaire ? Et peut-être quel est toi tes objectifs, tes ambitions ?
Du coup, oui, il y a forcément des objectifs et des ambitions. Hein. Moi, forcément, pour retenter du coup l'année prochaine, parce que c'est qu'une fois par an, retenter du coup l'année prochaine l'examen international auto. D'ici février, alors je crois que c'est février ou mars, hein, j'aimerais aussi essayer de passer du coup la licence chef de poste moto.
D'accord.
Sur Le Mans, du coup. Après, il y a forcément deux écoles. Hein. C'est ce qu'on dit toujours, il y a deux écoles. Il y a les personnes qui souhaitent rester commissaire et il y a des personnes qui souhaitent monter. Donc, c'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple dans l'automobile, du coup on a le commissaire national, ensuite on a le commissaire international, puis le chef de poste. Le chef de poste, du coup, c'est un commissaire A, donc qui va pouvoir officier à l'international, puis vraiment gérer les équipes à l'international. Ensuite, on va pouvoir partir sur du commissaire technique, du commissaire sportif, du directeur de course, bien sûr stagiaire avant, parce qu'on peut pas être directeur de course comme ça, hein, c'est très très difficile. Et après, oui, il y a tout ce qui va monter encore dans le collège des commissaires, du coup, la prise de décision des incidents, tout ça. Moi, je ne sais pas encore. Pour l'instant, au moins monter jusqu'à chef de poste.
Ok.
Mais je ne pense pas que je monterai plus, parce que pour le moment, la direction de course ne m'intéresse pas forcément. Mais je pense qu'à l'avenir, avec beaucoup plus d'années d'expérience, avec l'âge aussi, je pense que ouais, peut-être que je m'y tenterai, mais pour l'instant, je suis bien dans ma petite combinaison orange.
Okay. Les jeux de poste, pareil, ce sont des commissaires, donc ils sont bénévoles.
Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. En fait, c'est juste eux qui vont désigner les équipes. Par exemple, pour les 24 heures, c'est eux qui vont désigner les équipes. Mais c'est surtout eux qui vont être principalement en relation avec la direction de course, du coup, pour toutes les informations qui sont données par rapport à un incident, etc. Donc, c'est vraiment eux qui vont gérer ça. Après, il y a des adjoints, hein, forcément. Donc, en fait, on a trois... officiellement, on a trois chefs de poste, du coup, une par équipe. Mais oui, c'est des bénévoles aussi, hein. C'est des personnes qui ont été commissaires et qui juste ces personnes n'interviennent quasiment plus dans les incidents, parce que du coup, nous, on est là pour ça. Mais ils sont tout aussi importants, parce que c'est eux qui vont donner toutes les informations à la direction de course et qui vont prendre les informations de la direction de course.
Ok, très clair. Et écoute, merci beaucoup Sharon pour cet entretien, c'était super intéressant.
Eh ben, de rien, ça me fait plaisir de pouvoir... éclaircir un petit peu ce sujet aussi, parce que je reçois beaucoup beaucoup de messages qui me demandent comment on fait, mais le truc c'est que expliquer comme ça par message c'est très compliqué, mais si ça peut aider des personnes, franchement j'en suis super fier.
Ouais, n'hésitez pas à vous lancer, on a besoin de ces gens, de ces commissaires. Merci encore de faire ce travail, vous protégez nos pilotes, vous protégez nos sports et nos sports, parce que il y a vaste, le nombre de sports mécaniques est très vaste, et merci de protéger tous les gens qui sont là-dedans, et faites attention à vous.
Ouais, merci, c'est super gentil, puis au plaisir de voir des nouvelles têtes sur les examens de commissaire.
Ça marche, merci beaucoup.
Merci à toi.
J'espère que cette interview vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre Sharon sur Twitter, et bien entendu à rejoindre la grande communauté de Sprint. À très bientôt.